Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à toutes et à tous. C'est à Taïwan que j'ai choisi de consacrer cette émission aujourd'hui, car l'île revient régulièrement au cœur de l'actualité. Il faut reconnaître que son statut est à part. Depuis 1949, Taïwan est séparé politiquement de la Chine communiste grâce au soutien des Américains. Américains qui, par ailleurs, aident le Japon, ancien colonisateur de Taïwan et ennemi invétéré de la Chine. Or, la Chine continentale n'a pas l'intention de renoncer à son île. Les statuts de 1949 sont clairs. Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Et les États-Unis, comme le Japon, doivent respecter cette souveraineté. On comprend mieux dès lors l'enjeu que représente cette île, grande comme quatre fois la Corse et qui se trouve à 160 km de la côte sud de la Chine continentale. Les deux Chines parviendront-elles à se réconcilier un jour? C'est ce que je vous propose de découvrir en compagnie de Marianne Bastide-Bruguière, académicienne spécialiste de la Chine, et de Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre « Chine-Taïwan, la guerre est-elle concevable ?» publié chez Economica. Et vous êtes d'ailleurs l'heureux lauréat du prix de la Fondation franco-taïwanaise 2005, prix remis par l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1995, je crois. Oui. Merci à vous deux, en tout cas, d'être avec nous et de partager cette émission. On peut dire, sans se tromper, que c'est en octobre 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise, que la question du statut de Taïwan apparaît sur la scène internationale. Les nationalistes sont vaincus par les communistes, menés par Mao. Du coup, les Américains évacuent les partisans de Chiang Kai-shek sur l'île de Formose, donc actuelle Taïwan. Pour quelles raisons les Américains interviennent-ils dans les affaires intérieures de la Chine ?
Ce ne sont pas les Américains qui ont évacué les nationalistes vers Taïwan. Alors, ils y sont partis tout seuls. Les Américains,
pourtant, ils ont été aidés. Par les Américains.
Ils avaient encore quand même des restes de l'armée. Ils avaient 1 million d'hommes, ils avaient encore des bateaux, ils avaient encore des avions, et c'est eux-mêmes qui ont organisé ce transfert. Les Américains n'y sont pas du tout intervenus. À cette époque-là, les Américains envisageaient plutôt de reconnaître la Chine populaire. Donc, les Taïwanais ont pris... les nationalistes chinois se sont réfugiés à Taïwan parce que, au XVIIe siècle, au moment où la dynastie Mandchoue avait envahi la Chine et conquis l'Empire, des fidèles, des loyalistes chinois s'étaient réfugiés dans l'île de Taïwan et y avaient tenu pendant 40 ans. Et donc, Taïwan, c'était un endroit où on pouvait espérer, assurer une certaine sécurité et éventuellement, c'était le rêve de Chiang Kai-shek toute sa vie, revenir sur le continent chinois et reconquérir le continent chinois et réunifier la Chine, mais dans une république chinoise. Mais les Américains n'ont pas aidé à ce moment-là.
Et pourtant, je sais qu'il y a un commandant McDouglas en 1949 qui déclare que la ligne de défense américaine est constituée en fait par depuis les îles Aléoulien jusqu'aux îles Mariannes, et Taïwan fait partie de cette ligne de défense. C'est ce qui est, moi je l'ai lu, hein, c'est important.
C'est un peu plus tard, non, c'est un peu plus tard. C'est en fait la guerre de Corée qui scelle le destin de Taïwan et surtout la séparation de la Chine pour une période assez longue, puisque nous vivons encore dans cette période.
Non, c'est en juin 1950.
Ça, c'est en juin 1950.
Les nationalistes se réfugient à Taïwan. Dans l'été 49, des transferts qui se commencent déjà avant. Et le moment où la politique américaine change et décide de soutenir Taïwan, c'est juin 1950.
C'est la guerre de Corée qui a été
déterminante.
Qui a été déterminant et qui a amené le président Truman à donner l'ordre à la 7e flotte de se justement positionner dans le détroit de Taïwan. Oui.
Alors, il y a justement la guerre de Corée, mais il y a aussi, je crois, la guerre pour les îles, Matsu et Kemoi, plus tard, en 1953.
Il y a eu plusieurs affrontements. Il y a eu d'abord des affrontements en 1950, au début, peu après l'arrivée au pouvoir de Mao en Chine continentale. Et les troupes de Mao, donc l'Armée populaire de libération, a tenté de prendre d'assaut Kemoi. Il y a eu un débarquement qui a été repoussé par les armées de Chiang Kai-shek. Et finalement, Mao a abandonné toute entreprise de reconquête de ces îles, faisant le pari que ces îles constituaient un lien entre Taïwan et le continent et en fait maintenaient à proximité une république de Chine rebelle, mais avec laquelle il voulait maintenir une forme de confrontation de près. Et donc, ces îles ont été le théâtre de crises successives, après en 1958, puis après en nouveau en 1962. Mais jamais Mao n'a voulu véritablement les conquérir. Il a voulu tester à la fois la capacité de défense de Chiang Kai-shek, puis aussi la capacité d'engagement des Américains auprès de Chiang pour maintenir ces îles sous la tutelle du régime nationaliste.
Oui, parce qu'on dit que sur ces îles, il y avait des fortifications qui avaient été en fait...
Ah oui, ces îles étaient extrêmement protégées.
Par Chiang Kai-shek.
Elles le sont toujours.
Alors un peu moins maintenant.
Un peu moins, mais enfin, il y a quand même des bases.
Beaucoup d'installations et beaucoup de militaires taïwanais continuent d'y faire leur service militaire.
Mm-hmm. D'accord. Et donc ces îles sont encore problématiques aujourd'hui ? Est-ce que la Chine
revendique actuellement il y a des transports réguliers entre ces îles et le continent. Il y a un trafic de marchandises, de gens, de touristes absolument extraordinaire. Oui. Donc, tout est à prendre avec des nuances.
Oui, elles sont beaucoup moins problématiques que Taïwan, puisqu'elles constituent justement une espèce de trait d'union qui, sur le plan politique, intéresse les Chinois, parce que les Taïwanais qui y habitent, enfin les Chinois de Taïwan qui y résident, sont assez favorables à un rapprochement. Je ne dis pas à une réunification, hein, mais à un rapprochement avec le continent, parce qu'ils sont en très proches des côtes du Fujian et donc très dépendants des activités économiques qui peuvent s'y développer, et donc de ces transferts de biens et de personnes qui étaient illégaux pendant des années et que les autorités de Taïwan, le président Chen Shui-bian notamment, a progressivement légalisé en autorisant justement ce qu'on appelle les trois petites liens, les trois liens, petits liens entre ces îles et le continent.
Alors, pendant la guerre de Corée, pendant la guerre des îles, je ne sais pas si on peut l'appeler comme
58,
ça,
oui. 58 voilà.
En tout cas, le détroit de Taïwan apparaît comme un détroit stratégique. En quoi est-il si fondamental, ce détroit ? Pour les Américains d'une part, et puis on pourrait dire d'une certaine manière pour Taïwan et pour les Japonais.
Je crois que c'est une ligne de front, hein. Au moment de la guerre froide, et pour la guerre froide, c'est une ligne de front, hein. De même que le 38e parallèle en Corée, le 18e parallèle au Vietnam sont des lignes de front du monde libre, entre guillemets, contre le monde communiste. Mm-hmm. Jusqu'à la fin des années 70, le détroit de Taïwan est une zone dont la sécurité est protégée par les Américains. Il ne faut pas oublier que c'est un bras de mer international, donc qui est régi par le droit international. Et les États-Unis, mais d'autres puissances de la région, veillent à ce que les bateaux puissent librement y passer, que ce soit les navires de guerre ou les bateaux marchands. Et donc, c'est un bras de mer qui fait 140-180 km de large, et qui a jusqu'à aujourd'hui assuré en partie, tout au moins, la sécurité de fait de l'île de Taïwan. Et si on veut remonter une petite anecdote, c'est que Chiang Kai-shek, en 1949, a hésité entre plusieurs refuges. Il avait songé un moment à Hainan. Lorsqu'il a vu la proximité de l'île de Hainan du continent chinois, il a opté pour Taïwan, qui présentait l'avantage double d'être à la fois assez éloigné des côtes chinoises, tout en faisant partie de la Chine, puisqu'il avait revendiqué le retour de Taïwan à la Chine à la conférence du Caire en 1943, mais aussi d'avoir été modernisé par les Japonais et surtout d'avoir été préparé à une défense anti-débarquement par les Japonais eux-mêmes. Donc il a modernisé, utilisé comme base les installations militaires japonaises laissées par l'occupant en 1945.
Ah oui, d'accord.
Mais quand même, il y avait eu... Bon, Taïwan a été récupéré en octobre 1945, par les Chinois. Mais il y avait eu pendant toute l'année 1945 des bombardements alliés considérables sur Taïwan. Alors qu'est-ce qu'il restait vraiment fin 1945 des défenses établies par les Japonais? Ce qui était important surtout, c'est qu'il y avait à Taïwan des techniciens, une population éduquée. Et à Taïwan, en 1949, il y avait seulement 30% d'illettrés. En Chine continentale, à ce moment-là, n'avait 70%. Mmh. Donc c'était une très grande différence, alors que Hainan était non seulement plus petit, mais aussi très, très arriéré.
Ah, oui, beaucoup plus démunis. Oui, puis, donc, puis habité par des minorités.
Oui, enfin, c'était vraiment très arriéré. Il n'y avait rien à Hainan.
Alors pour revenir sur la question du détroit de Taïwan, est-ce que la Chine aujourd'hui a un droit de regard sur ce détroit?
Elle aimerait bien.
C'est ce qu'elle essaie.
Elle aimerait bien.
Elle essaie de le récupérer en entier.
Elle essaie de le neutraliser par diverses techniques. Et puis, elle essaie d'imposer une demande d'autorisation à tout passage de bateaux, notamment de navires de guerre étrangers. Les flottes étrangères s'y prêtent plus ou moins. En général, les flottes alliées, que ce soit américaines, japonaises, australienne résiste à ces tentatives, mais on voit bien dans la stratégie de la Chine une volonté de neutraliser ce bras de mer et de progressivement fragiliser la sécurité de Taïwan par une présence navale de plus en plus régulière et visible de ces bâtiments dans la région.
Alors en tout cas, en 1954, les États-Unis sont bien décidés à assurer la défense de Taïwan. Et pour ce faire, ils s'engagent officiellement en signant un accord de défense. Que prévoit cet accord à ce moment-là? Alors, Jean-Pierre Cabestan.
Cet accord prévoit différentes choses. D'abord, la sécurité, une contribution américaine à la sécurité, c'est un intérêt de défense, donc à la sécurité de la République de Chine à Taïwan. Cet accord exclut cependant les îles proches des côtes de Fujian, de Kemoi et Matsu. Et donc, lors des crises de 54, surtout la crise de 58, les Américains apporteront un soutien logistique à Chiang Kai-shek, mais ne s'impliqueront pas dans la défense de Kemoi. Et ils prévoient surtout l'installation de bases américaines à Taïwan, qui sont restés donc en activité jusqu'en 79. Et c'est une des conditions de la reconnaissance par la Chine, la fermeture de ces bases, qui étaient très importantes et qui ont favorisé une modernisation assez rapide de l'armée taïwanaise.
Alors, est-ce qu'on peut dire justement que cet accord marque aussi peut-être, je ne sais pas, le début du réarmement de l'île? Est-ce qu'on peut envisager ou voir les choses comme ça?
C'est pas un réarmement, parce que Chiang Kai-shek est arrivé avec un million d'hommes, d'hommes qui étaient encore armés, qui étaient des soldats.
Beaucoup de matériel.
Une part considérable des ressources de l'île ont été consacrées à la défense dès le début.
Oui, mais pourtant, la Chine a mis un embargo sur les armes, sur la vente d'armes à Taïwan.
Oh, mais pas en 1950, la Chine était complètement incapable d'imposer n'importe quel embargo. La Chine le gouvernement communiste n'était reconnu que par les pays d'Europe de l'Est. Hein, et n'avait aucun poids international. Donc, en réalité, les États-Unis ont surtout aidé à moderniser la défense de Taïwan.
Tout à fait.
C'est ça.
Surtout,
à l'organiser, à la réorganiser, parce que les moyens militaires de la Chine nationaliste avaient montré leurs limites, puisqu'ils avaient perdu la guerre civile.
En plus, c'était surtout une armée continentale. Oui. Une armée continentale qui s'appuie surtout sur la mer de terre. Il a fallu développer la marine, développer l'armée de l'air. La défense d'une île, ce n'est pas la défense d'un continent. Hein. Oui. Donc, on a senti jusque dans les années 90 le poids et l'hégémonie de l'armée de terre sur la défense taïwanaise, qui a été un facteur de sclérose, puis surtout de ralentissement, de frein. Ça a été un frein à la modernisation de l'armée chine, taïwanaise. Mais non, la présence américaine a eu aussi, peut-être pour effet un peu pervers, de ralentir certaines réformes, parce que les Taïwanais s'appuyaient beaucoup sur les Américains, justement dans ces deux domaines, la marine et l'aviation. Les Américains avaient près de Taichung une énorme base aérienne, d'où partaient un certain nombre de bombardiers vers le Vietnam, au moment de la guerre du Vietnam. Donc, et la 7e flotte était dans le secteur. Et finalement, c'est après le départ des Américains que la modernisation de la marine et de l'aviation taïwanaise ont été le plus rapides. On l'a bien vu, notamment à l'occasion des contrats de Mirage signés en 92 ou des Lafayette signés en 91. C'est-à-dire que les Taïwanais, à ce moment-là, ont accéléré leur modernisation et sont tournés vers d'autres fournisseurs que les Américains. Mais Oui, les Américains ont beaucoup aidé les Taïwanais à partir de 50 en fait.
Oui. On marque une courte pause.
Vous écoutez Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie, on retrouve
Jessica Baudet.
Nous étions à l'instant en train de discuter avec Jean-Pierre Cabestan et Marianne Bassid-Bruguière, tous deux spécialistes de la Chine, du fait que les Américains avaient largement aidé, non pas au réarmement, mais en tout cas à moderniser la défense de Taïwan. Nous nous étions arrêtés d'ailleurs aux années 53-58 et quelques années plus tard, cet accord de défense est renforcé par l'acte des relations taïwanaises. Trois communiqués sont rédigés par Washington, en tout cas l'administration américaine, en 72, en 79 et en 82. Dans le premier communiqué, celui de Shanghai, les États-Unis acceptent le principe d'une Chine unique à condition que la réunification de Taïwan se fasse dans la paix. Pourtant, alors Marianne Bastide-Bruguière, vous me disiez en début d'émission que finalement les États-Unis avaient toujours voulu reconnaître la Chine et non pas Taïwan. Et moi, je pensais
enfin,
justement
toujours,
qu'il s'agissait d'un changement de politique.
Toujours en 49, le gouvernement américain envisageait très sérieusement de reconnaître le gouvernement communiste chinois.
Mais pourtant, hein? Pourtant, c'est Taïwan qui rentre à l'ONU jusqu'en 71. C'est pas la République populaire
oui,
de
mais
Chine.
C'est à cause de la guerre de Corée.
Oui. Taïwan
est resté.
Il est resté, oui. C'est ça.
Parce que la République de Chine était membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Et la République de Chine est restée membre des Nations Unies. Et comme les Américains n'ont pas reconnu la Chine populaire, la question ne s'est pas posée jusqu'au moment où les Américains ont engagé des négociations avec la Chine populaire pour, en vue de la reconnaissance. Alors là, à ce moment-là, c'est d'abord, il y a eu d'abord la récupération du siège en 1971. Et puis après ça, les Américains ont formalisé. Mais si les Américains avaient mis un veto complet à la récupération du siège en 71, les Chinois ne l'auraient pas eu.
Oui, mais alors justement, sur l'acte des relations taïwanaises, les Américains marquent une reconnaissance officielle de la République populaire de Chine. En tout cas, le fait que Taïwan appartienne à la Chine continentale.
Non, c'est pas ce qu'il dit, c'est beaucoup plus ambigu.
Alors dites-moi, Jean-Pierre Cabestan.
C'est plus compliqué.
Oui, oui. Sur 59, l'automne, juste un mot sur l'automne 59, printemps 50. C'est un moment. 49, printemps 50. C'est un moment où les Américains avaient décidé, en fait, d'abandonner Chiang Kai-shek. Oui. Ils en avaient assez de subvenir au maintien d'un régime qui n'avait aucun avenir sur le continent. Ils pensaient que Chiang Kai-shek n'allait pas tenir à Taïwan, que tôt ou tard, un débarquement des armées de Mao Tse-tung allait l'obliger à quitter Taïwan. Et donc, la République de Chine allait disparaître. C'est pour ça qu'ils préparaient une reconnaissance de la République populaire. Les archives du département d'État qui ont été ouvertes depuis la fin des années 80 montrent justement qu'il y a eu des tractations, il y a eu tout un courant favorable à la reconnaissance de la République populaire jusqu'en juin 50 où là la donne change à cause de la guerre de Corée. Et on peut d'une certaine manière, c'est le paradoxe de l'histoire, remercier Kim Il-sung d'avoir envahi la Corée du Sud puisque c'est ce qui a permis la survie de Taïwan. Alors on peut réécrire l'histoire en se disant, est-ce que finalement Chiang Kai-shek, puisqu'il s'était réorganisé, il avait 1 million d'hommes, est-ce qu'il n'aurait pas repoussé un assaut communiste? L'armée, c'est difficile à dire. L'armée communiste avait peu de... C'est vrai qu'elle avait peu de bateaux, une aviation très faible.
Elle n'avait pas du tout. Hein.
Mais on avait bien vu que au printemps 50, ils avaient concentré un grand nombre d'hommes au Futian et ils préparaient un débarquement avec des bateaux de pêche, avec une espèce d'armada multiforme. Oui. Qui aurait probablement submergé les armées de Chiang Kai-shek. Alors, voilà pour 50. Maintenant, 79. Faut revoir ces trois communiqués un peu dans la continuité. Et 72 est déjà très ambigu. Il est clair qu'en 72, les États-Unis maintiennent leur politique de la Chine unique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une Chine. Et ils reconnaissent le fait que les deux régimes chinois, de part et d'autre du Détroit, reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine. Pour Taïwan, c'est la République de Chine. Pour la République populaire, pour Pékin, c'est la République populaire de Chine. Et c'est la seule chose que les Américains reconnaissent. En 79, les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec Pékin, avec la Chine populaire, donc abandonné Taïwan, mais en même temps, ils n'ont pas formellement reconnu que Taïwan faisait partie de la République populaire. Ils ont reconnu que Taïwan faisait partie de la Chine, mais pas de la République populaire de Chine. Vous verrez nulle part un document américain confirmant que Taïwan fait partie de la République populaire de Chine. C'est ce que souhaiterait évidemment Pékin, mais les Américains n'ont jamais reconnu. Donc vous avez une ambiguïté, et surtout vous avez le maintien de relations officieuses, mais très fortes, entre les États-Unis et le peuple taïwanais, entre guillemets, notamment après l'adoption de la loi sur les relations avec Taïwan, le Taiwan Relations Act, en avril 1979, qui instituent des relations quasi officielles entre la République, entre Taïwan et les États-Unis. Donc une grande ambiguïté sur le statut de Taïwan et puis surtout le statut à venir de Taïwan ou l'issue de cette confrontation ou de cette éventuelle négociation entre Pékin et Taipei.
Et puis, l'engagement aussi dans cet acte. D'intervenir pour protéger Taïwan au cas où où le continent attaquerait. Hein,
oui, tout à fait, ce qui est très important. Le terme engagement fort, mais c'est vrai, c'est qu'il y a un engagement de défense.
De défense. Qui d'ailleurs s'est matérialisé en 95-96.
Par la crise du Détroit.
Quand le continent a commencé à envoyer des petits missiles.
Bien sûr.
Alors justement, au cours de ces trois communiqués, le Japon accueille avec une certaine inquiétude cette reconnaissance par les Américains de la République populaire de Chine.
Non, parce que le Japon commerçait avec la Chine. Et le Japon, pour son commerce, pour son développement économique, avait besoin de bonnes relations avec la Chine. Donc, simplement, les Japonais ont été vexés que les Américains ne les aient pas prévenus à l'avance.
Ouais, surtout pour ce qui concerne la visite de Nixon.
Pour la visite de Nixon.
Ah, ils l'ont eu
en travers du gosier, s'exprimer délicatement. Mais... les Japonais, vous avez dit au début de votre exposé que le Japon était un ennemi invétéré de la Chine. Ce n'est pas vrai du tout. Non.
Et pourtant, dans l'actuel gouvernement, il y a quand même des ministres anti-chinois.
Mais non. Ils ont des intérêts qui sont de temps en temps opposés et ils peuvent s'opposer, mais ils ne sont pas un ennemi invétéré de la Chine.
Ils ont quand même fait une politique de décolonisation qui était quand même anti-chinoise quand les Japonais ont occupé Taïwan.
Non, mais les Japonais ont eu une phase d'expansionnisme, comme beaucoup d'autres populations dans le monde. Et pendant cette phase expansionniste, évidemment, ils ont commis un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles par rapport aux droits de l'homme. Vous ne pouvez pas dire que le Japon est ennemi invétéré de la Chine. C'est exactement comme dire la France est ennemi invétéré de l'Allemagne. Enfin, c'est du même ordre.
Mais les Japonais sont quand même connus pour avoir détruit tout ce qui était lié à la culture chinoise. Ça, on ne peut pas dire le contraire pendant la colonisation japonaise.
Mais ce n'est pas vrai. Ils ont conservé énormément de choses aussi. Bon, ils ont pratiqué une politique d'assimilation entre les deux guerres mondiales. Où ils ont obligé les Taïwanais qui voulaient s'instruire à venir s'instruire au Japon. Et l'enseignement était donné aux Japonais à partir de l'enseignement secondaire.
Surtout à la fin, à la fin,
surtout
à la fin de la Kominka, à la fin de la colonisation japonaise, à partir de 1936.
Mais en même temps, il y avait des savants japonais qui venaient à Taïwan et qui s'intéressaient à Taïwan d'un point de vue purement ethnologique. Si vous voulez, ça fonctionnait un peu comme la colonisation française au Vietnam, où il y avait d'une part des exactions, le boulot Condor, etc., et d'autre part des savants français qui venaient faire des fouilles et protéger l'archéologie vietnamienne. Il s'est passé la même chose du côté du Japon. Et beaucoup d'éléments de la culture taïwanaise, et même de la culture des tribus qui est aborigènes, ce qu'on appelle tribus aborigènes à Taïwan, a été conservé grâce aux Japonais. Et il y a eu des études japonaises faites sur les droits, les coutumes, les us et coutumes à Taïwan, mais les us et coutumes chinoises, de la population Han de Taïwan, qui ont été faits dans les années 1900, qui sont quelque chose de tout à fait remarquable, comme enquête juridique, ethnologique, sociologique, etc. Donc, c'est pas complètement, c'était pas du tout la table rase. La colonisation japonaise à Taïwan est probablement la moins néfaste des colonisations qui est pratiquée le Japon. En revanche, en Corée, ça a été beaucoup plus destructeur et beaucoup plus dur qu'à Taïwan.
Oui, non, tout à fait raison. Non, je crois que Marianne Bastier a tout à fait raison. C'est-à-dire que ça dépend si vous considérez l'ensemble de la relation sino-japonaise depuis Meiji, si vous voulez, depuis 1868 à nos jours, ou si vous considérez ce que les communistes, la période sur laquelle les communistes chinois portent toute leur attention, qui est la période de la guerre sino-japonaise, 37-45, et dont ils commémorent régulièrement la défaite et depuis la guerre. Ou alors si vous considérez d'autre part la relation entre le Japon et Taïwan. Bon, il y a une relation de concurrence depuis Meiji qui est due au fait que le Japon a réussi sa réforme, a réussi sa modernisation à partir de Meiji, et que la Chine en a conçu une énorme jalousie, a essayé d'étudier auprès du Japon, et il y a eu une fascination pour le Japon jusqu'en 37. Qui a repris après 45
et qui a caché
et aussi une attirance du Japon pour la culture chinoise qui est constante parce que le Japon a toujours étudié auprès de la Chine. Le Japon est confucianiste, et donc c'est une relation compliquée. Puis alors vous avez la période de la guerre où le communisme a trouvé son essor, et donc le nationalisme développé par le régime communiste aujourd'hui table justement sur cette période de confrontation et surtout de domination japonaise sur le continent chinois. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à Taïwan, cette période a été vécue de manière complètement différente. Au contraire, c'était une période d'assimilation, et les 50 ans de colonisation japonaise à Taïwan ont été des années dans l'ensemble de modernisation, au début qui s'est développée dans un cadre très autoritaire, qui s'est libéralisé sous l'influence du régime Taisho, qui était un régime parlementaire relativement libéral. Donc jusqu'à la montée du militarisme, donc au milieu des années 30, vous avez une période où Taïwan connaît à la fois une modernisation économique, mais aussi politique, avec des élections locales, avec une représentation des élites locales dans le gouvernement taïwanais. Donc c'est cette expérience de modernisation qui est revisité aujourd'hui par les Taïwanais sous un regard extrêmement positif, et surtout lorsqu'on compare cette période à la période de l'après-guerre où les armées de Chiang Kai-shek sont arrivées d'un continent qui était moins développé que Taïwan, beaucoup moins formé, beaucoup moins bien encadré, et on réinstaurait un régime qui était, il faut le dire, plus rétrograde, plus arriéré que le régime que les Japonais avaient mis en place à partir de 1895.
Oui, mais actuellement, justement, le gouvernement du Premier ministre Koizumi est un gouvernement qui compte quand même bon nombre de ministres anti-chinois, dont le fameux Nabutaka Mashimura, qui est aux affaires étrangères.
Mais non, ils sont pas simplement, ils défendent les intérêts nationaux du Japon. D'une manière quelquefois assez... assez ferme, mais ils ne sont pas anti-chinois.
Non, ils ne sont pas anti-chinois, on ne peut pas dire ça. Ils sont... Je crois qu'il y a un sentiment au Japon qui est, s'est développé depuis une dizaine d'années, depuis la crise des missiles en fait. C'est une crainte à la fois de la montée en puissance militaire de la Chine populaire, parce que c'est un régime autoritaire qui ne souffre pas d'une opposition organisée, et donc dont le nationalisme paraît dangereux. Mmh. Et le Japon est un voisin immédiat de la Chine, et donc perçoit cette montée en puissance militaire comme une menace pour sa sécurité. Et puis il y a aussi une montée en puissance économique, qui aussi est perçue comme une forme de menace par le Japon, une forme de menace qui est plus concurrence, qui a eu déjà un impact important sur l'économie japonaise, qui est en stagnation depuis une dizaine d'années, et donc concurrence économique, délocalisation d'entreprises japonaises. Donc tout cela a créé au Japon un véritable syndrome de la menace chinoise. C'est-à-dire que les Japonais se sentent menacés par la Chine. Ça, on ne le dit pas. Et beaucoup plus que les Américains. Et c'est beaucoup plus net qu'aux États-Unis. Oui. Et donc l'ensemble de l'opinion publique japonaise a peur de la Chine aujourd'hui. Il faut le dire, enfin, je crois de manière très simple.
Est-ce que justement la menace est réelle pour les Japonais? Qu'est-ce qu'ils craignent?
Elle n'est pas nulle. Hein. Depuis 4 ans, ça a amené les Japonais qui avaient eu tendance à prendre leur distance par rapport aux États-Unis à au contraire resserrer leurs liens. Enfin, au moins, au pouvoir a resserré leurs liens avec les États-Unis. Et moi, ce que je trouve très frappant, dans les milieux intellectuels japonais, en général, ils étaient à gauche, et beaucoup étaient marxistes, et beaucoup ont été membres du Parti communiste, et ils étaient très pro-chinois. Eh bien, l'évolution de mentalité, de vision de ces gens qui ont été les premiers promoteurs du rapprochement entre la Chine et le Japon, et qui, du temps où il n'y avait aucune relation entre la Chine et le Japon, allait quand même en Chine et faisait de la propagande pour la Chine populaire, ces gens-là sont prudents maintenant, en disant, bon, on aime les Chinois, la Chine est la source de notre civilisation, ils le reconnaissent, mais il faut se méfier parce que de temps en temps, il faut avoir des contrepoids. Et puis alors, l'idée, c'est qu'il faut avoir des contrepoids.
Tout à fait. Puis alors, les manifestations récentes du nationalisme chinois sont plutôt de nature à inquiéter les Japonais. Il faut voir comment les manifestations anti-japonaises qui ont eu lieu ce printemps à Pékin, à Shanghai et dans d'autres villes du pays, qui ont donné lieu à des débordements violents, à la fois par des violences verbales, racistes, anti-japonaises, puis aussi un certain nombre de violences physiques contre des Japonais ou des intérêts japonais en Chine. Tout ceci a été présenté en boucle par toutes les télévisions du pays, au Japon. Et vous pouvez imaginer le sentiment que peuvent avoir les Japonais sur la Chine aujourd'hui. Il va falloir, aux autorités chinoises, vraiment travailler dur pour améliorer leur image au Japon. Cela a déjà affecté le tourisme japonais en Chine. Ça peut affecter un certain nombre de décisions économiques d'investissement, de relocalisation en Chine. Si le Japon, un décideur japonais, peut choisir entre la Chine et un autre marché pour installer ses entreprises, il choisira probablement le Vietnam ou la Malaisie ou même Taïwan plutôt que d'aller en Chine. Donc ça pose des problèmes pour une relation qui est complexe, qui est surtout très riche sur le plan économique. Le Japon est le deuxième partenaire économique de la Chine avec l'an dernier.
C'est
100
le premier
soit...
maintenant.
Non, deuxième. Derrière les États-Unis. Ça dépend des statistiques.
Les dernières statistiques disent que c'est le premier devant les États-Unis.
Ça, ce sont les sources chinoises.
Les Chinois qui disent
parce que
les Japonais, non.
Non. Les Japonais ont une relation très importante avec la Chine. C'est leur premier partenaire économique devant les États-Unis, aussi du côté japonais. Mais lorsqu'on regarde les statistiques qui incluent les transferts par Hong Kong et qui expliquent l'ampleur du déficit américain à l'égard de la Chine, les États-Unis sont devant. Ils ont un peu plus de 205 milliards l'an dernier d'échanges. Oui. Le Japon avait atteint 168 milliards l'an dernier d'échanges. Donc, ils sont au-dessus.
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jessica Baudet.
Alors nous évoquions à l'instant avec Marianne Bastide-Bruguière et Jean-Pierre Cabestan, tous deux spécialistes de la Chine et de Taïwan, puisque l'émission est consacrée à Taïwan aujourd'hui, les liens que le Japon entretient avec l'île, liens d'ailleurs complexes. Et depuis 88, en tout cas, Taïwan offre un modèle de démocratie assez intéressant, puisque tous les scrutins électoraux de l'île se transforment par exemple en véritable enjeu politique. En 88, les Taïwanais élisent pour la première fois leur président. L'échéance électorale est de taille puisqu'elle met fin au règne du fils de Chiang Kai-shek. C'est Lee Teng-hui qui est élu président. Quelle attitude adopte-t-il à l'égard de la Chine continentale?
Il n'a pas mis fin au règne du fils de Chiang Kai-shek. Le fils de Chiang Kai-shek est mort de sa belle mort, le malheureux. C'était lui d'ailleurs qui avait déjà commencé à mettre en train des réformes démocratiques, et Lee Teng-hui a été élu président.
Mais il était déjà vice-président.
Donc
à la mort de Chiang Kai-shek, il a succédé.
Mais c'est quand même la première élection démocratique.
Non,
il a été élu par la Chambre,
par l'Assemblée nationale.
La première élection démocratique, elle est de 1996.
Après le détroit de Taïwan,
oui,
après la fin du détroit.
Mais c'est Lee Teng-hui, pour son deuxième mandat, qui a institué une élection au suffrage universel direct du président de la République. Et là, c'était la première fois que ça se passait dans un État chinois.
Oui, c'est une grande première.
C'est une grande première.
Alors, quelle est son attitude, justement, plutôt que le scrutin électoral, quelle est son attitude vis-à-vis de la Chine continentale? Est-ce que c'est quelqu'un qui est partisan d'une réunification avec la Chine continentale, ou est-ce qu'il soutient les velléités d'indépendance de Taïwan?
C'est délicat.
Marianne Bastide-Bruguière.
Non, en réalité, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, Lee Teng-hui, parce qu'à l'origine, il était communiste. Et il a collaboré avec le Parti communiste du continent. Et puis ensuite, il a changé. Quand il a été élu président, il était à la tête du Parti nationaliste. Mais il était natif de l'île de Taïwan. C'est la première fois qu'il y avait un président qui était natif de l'île de Taïwan. Et il a préparé les choses pour que le gouvernement de l'île de Taïwan revienne à ce qu'on appelle les Taïwanais, c'est-à-dire des gens qui sont nés à Taïwan et non pas à une élite venue du continent en 49. Mais l'élite venue du continent en 49, elle avait vieilli aussi. Et donc il y avait de moins en moins de personnages en état de continuer à gouverner. Donc c'est une transition vers un gouvernement plus taïwanais, avec probablement des espoirs d'indépendance, mais tout ça, c'est à tâtons. Si ça paraît dangereux, on recule. Si on voit qu'on peut avancer, on avance.
Je ne sais pas
ce que vous en pensez.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que tant qu'il a été président de la République et donc aussi président du Kuomintang, en tout cas, sur le papier, formellement, il était favorable à une réunification à long terme de Taïwan et du continent sous un régime démocratique. Et il avait, lorsqu'il était président, en 1991, fait passer ce qu'on appelle les Tongyi Gangling, c'est-à-dire les lignes directrices sur la réunification de la patrie, qui prévoyait une réunification de la Chine en trois étapes, donc un rapprochement entre les deux entités, mais une unification qui ne pouvait se réaliser que dans le cadre d'un régime démocratique. Après, évidemment, ce qui s'est produit, c'est que cette taïwanisation dont parlait Marianne Bastide a eu un effet immédiat. Et démocratisation et taïwanisation, vous mettez les deux ensemble, ça provoque une identité entre l'île de Taïwan et puis le régime République de Chine. Et ce qu'a surtout essayé de poursuivre comme objectif, mais avec le soutien de tout le monde, que ce soit du Kuomintang et a fortiori du parti d'opposition, le Parti démocrate progressiste, c'était de faire réintégrer Taïwan à la communauté internationale, de réintégrer Taïwan à donc au concert des nations et de faire en sorte que la République de Chine soit à nouveau quelque part sur la carte. Donc c'était cette campagne lancée en 93 pour le retour à l'ONU, développer des relations diplomatiques avec des pays qui ont des relations avec la Chine. Ça n'a pas marché, évidemment. Enfin, toutes ces campagnes ont été vouées à l'échec. Mais enfin, l'ambition d'Itang Rouet était double, si vous voulez, et un peu ambiguë. Mais une fois, après avoir été chassé du Kuomintang, après la défaite de Lien Jan, et donc l'arrivée au pouvoir de l'élection du président Chen Shui-bian, donc le candidat du Parti démocrate progressiste, Itang Rouet a évolué, est-ce qu'il est devenu vraiment lui-même à ce moment-là? Je pense que c'est un homme politique, dont les positions ont aussi pu changer au cours des années, et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu farouchement en faveur d'une séparation, d'une indépendance de Taïwan, l'instauration d'une république de Taïwan. Il a créé un parti qui s'appelle le Parti pour la solidarité taïwanaise, et qui a pour objectif de consolider le statut de Taïwan comme entité État indépendant de la Chine populaire.
Alors justement, en juin 1995, Li Tanggui se rend aux États-Unis pour visiter son ancienne université. Mais ce voyage semble exaspérer un peu les dirigeants chinois. Le mot est faible. Pour quelle raison, Marianne Bastide-Bruguière?
Parce que les dirigeants chinois ont craint à ce moment-là que les Américains ne soutiennent l'indépendance de Taïwan.
Mais pourtant, c'était présenté comme un voyage d'agrément.
Oui, mais bien sûr, mais c'était le seul moyen d'avoir le visa. Il y a toujours la face, donc c'était pour jouer au tennis qu'il allait là. Mais les dirigeants chinois ont eu peur. Mais dans l'affaire des missiles en 95-96, il y a des choses. C'est assez complexe parce que la situation intérieure en Chine continentale à ce moment-là était difficile. Et Hua Guofeng, on a raconté. Jiang Zemin, pardon.
Donc le président
Jiang
Zemin,
on a raconté que Jiang Zemin, qui n'avait pas vraiment en main l'armée à ce moment-là, a laissé des militaires batailleurs lancer leurs missiles pour que, en étant sûr que ça échouerait et que ça serait un fiasco complet, ce qui lui permettait ensuite de les éliminer et de prendre en main complètement l'armée de l'armée populaire.
Ce qu'on a quand même oublié de dire aux auditeurs, oui, c'est que ce déplacement aux États-Unis provoque une réaction de la part des Chinois qui menacent.
Ah ben, ils ont envoyé des missiles.
Voilà. Oui, qui envoient des missiles sur Taïwan.
Pendant l'été 95, et puis de nouveau, 15 jours avant les élections présidentielles au suffrage universel, en mars 96.
Donc ça ouvre la première crise du Détroit, telle qu'on l'appelle.
Oui, enfin, la crise des missiles, parce que c'est pas la première. C'est la crise des missiles, parce que c'est vrai que depuis 1979, c'est la seule crise militaire à laquelle on est assisté. Mais bon, c'est une gesticulation militaire, dans le sens où des missiles à blanc ont été lancés en direction de Taïwan, mais à distance quand même relativement raisonnable de l'île, et pour démontrer la capacité de la Chine d'atteindre par des moyens militaires donc des objectifs sur l'île de Taïwan. Mais je crois que cette affaire des missiles est assez complexe, parce qu'effectivement, comme le disait Marianne Bastide, en 95, Jiang Zemin vient de prendre les rênes du pouvoir. En 94, Deng Xiaoping voit sa santé décliner, il se retire complètement des affaires, donc laisse la place libre à Jiang Zemin. Il vit encore jusqu'en février 1997, hein, il a vécu très longtemps. Et donc Jiang doit s'imposer à l'armée. Il lance une proposition à Taïwan, un discours en 8 points qui semblait un geste d'ouverture au début de l'année 95. Et là-dessus, il est pris à contre-pied. Il a pris à contre-pied d'abord par les Américains, parce que Clinton lui avait promis, et l'administration, la branche exécutive, si vous voulez, du pouvoir en Amérique, lui avait promis qu'il jamais n'accorderait un visa à Li Tanghui. C'était l'avis du département d'État. Et puis, sous la pression du Congrès, il a bien été obligé de céder et donc de laisser Li Tanghui venir aux États-Unis et retourner à son université, l'université de Cornell. Ça a été une surprise, à la fois pour le département d'État, Mais qu'est-ce que vous voulez lorsque l'unanimité du Congrès, sauf une voix, je crois, à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat, vote donc politique, hein, même si c'est non-binding, donc c'est pas, oui. ça ne contraint pas le pouvoir exécutif, mais enfin c'est un vote fort. Qu'est-ce que vous voulez que les Clinton fassent ? Le département d'État n'a pas pesé bien lourd à ce moment-là. Donc les Chinois ont eu l'impression d'avoir été trahis. Je crois qu'ils ont mal compris le système politique américain. Et après, Tiang a dû affronter les militaires qui disent « Mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et c'est là où il a dû alors donner des gages, je dirais, aux généraux. Justement, les laisser tester des missiles. Il dit, vous avez la capacité, vous dites que vous avez la capacité de prendre Taïwan, bah, montrez-moi. Alors, on va démontrer. Et alors, on dit qu'il avait même poussé à multiplier les essais de missiles pour à la fois asseoir son pouvoir sur les militaires. Et puis, alors, est-ce qu'il a voulu aller jusqu'à montrer aux militaires que cette politique était sans issue? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils aient complètement anticipé la réaction américaine, qui a été une réaction que l'on sait.
Mais dites-la-nous, dites-la aux auditeurs.
Donc, il y a été l'envoi de deux groupes aéroportés dans la zone de Taïwan. Alors, les deux porte-avions et le groupe groupes navals sont restés en grande partie en dehors du détroit. Un ou deux bâtiments sont rapprochés du détroit, mais ils n'ont pas voulu justement pénétrer dans le détroit de manière très nette afin de ne pas trop provoquer la Chine. Mais enfin, le message était clair. Et d'une certaine manière, cette crise des missiles a obligé les Américains à sortir de leur ambiguïté stratégique et a montré clairement qu'ils avaient un intérêt direct à la sécurité de Taïwan et au maintien du statu quo du fait de ce Taiwan Relations Act de 1979 qui était un engagement de sécurité fort, comme l'a dit Marianne Bastide. C'est qu'il y avait là une clause de fait qui ressemble, comme les Chinois sans doute et le disent parfois avec regret, à une forme de traité de sécurité, traité de défense, qui ne dit pas son nom.
Alors justement, À la suite de la crise du détroit de Taïwan, chaque échéance électorale a été un peu l'occasion pour la Chine aussi de montrer, d'affirmer cette souveraineté sur Taïwan. Les menaces ont été plusieurs fois réitérées. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine continue, je ne sais pas quelle est la prochaine échéance électorale, mais est-ce que la Chine continue de menacer, d'envoyer des missiles sur Taïwan si l'échéance du scrutin n'est pas favorable à ce qu'elle voudrait ? Marianne Bastide-Bruguière.
Il y a eu ce vote au mois de mars par l'Assemblée populaire nationale de la loi dite anti-sécession qui autorise...
C'est mars 2000
2005.
En mars 2005.
2005.
Cette année.
D'accord.
Qui autorise donc à agir par la force en cas d'indépendance de l'île. Alors, c'est une mesure assez curieuse parce que dans un État complètement autoritaire, on n'a absolument pas besoin de l'Assemblée nationale pour déclarer la guerre ou commencer une opération militaire. Et d'ailleurs, jamais le gouvernement chinois n'a demandé son avis à l'Assemblée nationale pour envoyer des troupes, où que ce soit. Et donc là, c'est aussi une espèce de gesticulation, de manifestation qui correspondait à des échéances électorales à Taïwan. Et puis ensuite... il y a eu cette invitation faite aux partis nationalistes, aux dirigeants des partis nationalistes, de se rendre sur le continent où on leur a mis le tapis rouge, on a reconstitué des rites qui ne sont absolument plus pratiqués en Chine populaire. Et il y a eu une sorte de cirque absolument inimaginable autour de ça.
Oui, belle mise en scène.
Ah oui, mais c'était incroyable. Et en réalité, tout cela... il faut que Jean-Pierre Capestan dise ce qu'il en pense, mais tout cela est cousu de fil blanc. C'est de l'opéra chinois. On regarde jusqu'où on peut aller, et puis après on recule en disant mais non, on est en bon terme. Et d'ailleurs, à peine on avait procédé à toutes ces gesticulations qu'il y avait des avions pour transporter les Chinois de Taïwan qui sont établis en très grand nombre sur le continent. Il y en a même près d'un million, pour leur permettre de regagner directement Taipei ou Taïwan pour les fêtes du Nouvel An chinois. Donc on a apaisé les choses et puis il y a toutes sortes de projets qui sont en cours, de manifestations qui montrent que tout ça est très apaisé. Donc il y a beaucoup de gesticulations. Moi ce que je pense c'est que parmi les dirigeants chinois actuellement, il y a une offensive pour tester... pour essayer de de pousser un peu les frontières, pas les frontières de la Chine, parce qu'il ne s'agit pas de frontières terrestres, de frontières maritimes véritablement, mais la zone de domination exclusive de la Chine. Et ça s'exerce, n'est-ce pas, Taïwan est un verrou sécuritaire. Et ça ferme, ainsi d'ailleurs que les petites îles qui dépendent du Japon, l'accès à l'océan Pacifique. Et le gouvernement chinois essaie, dans différents endroits, dans des petites îles, de temps en temps, de voir s'il peut percer, hein, et avoir l'ouverture sur le Grand Pacifique. Donc, tout ça, c'est beaucoup de manipulation et de tâtonnement pour voir jusqu'où on peut aller. Et de l'autre côté, au contraire, en Asie centrale, la Chine profite des ennuis américains en Irak pour avancer ses pions dans toute l'Asie centrale. Et actuellement, elle fournit une aide importante à ces États d'Asie centrale et en même temps, elle a organisé les choses pour que le pétrole et le gaz de l'Asie centrale aille en grande partie vers la Chine. Mais je ne sais pas quel est votre avis.
Très intéressant. Jean-Pierre
Cavesti. Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je crois que pour ce qui concerne la situation des relations dans le Détroit, bon, elles offrent un paradoxe qui est bien connu, hein, qui est ce sont ces échanges à la fois commerciaux, humains, très intenses, qui vont croissant chaque année. Vous avez un commerce qui va bientôt dépasser les 100 milliards de dollars par an entre les deux rives du Détroit. Des mouvements de population, surtout de Taïwanais qui se rendent en Chine. Et puis d'un autre côté, vous avez une montée en puissance de l'outil militaire chinois qui contribue à menacer Taïwan. Et le discours du ministre de la Défense américain Rumsfeld à Singapour, là, dans le cadre du Shangri-La Dialogue, il y a une semaine, c'est assez caractéristique des préoccupations américaines sur le déséquilibre, enfin que provoque cette montée en puissance de l'armée chinoise et surtout de sa menace contre Taïwan. La Chine a développé, concentré au Fujian et au Tianxi environ 700 missiles à tête conventionnelle, mais qui sont tous braqués contre Taïwan, c'est des missiles à courte portée. Et chaque année, vous avez 100 missiles de plus. Alors, Taïwan est obligé de se défendre, trouver un moyen de mettre en place des parades, à la fois par des armes antimissiles, mais ça ne suffit pas, ce sont des armes qui ont des capacités assez limitées, et puis aussi développer peut-être aussi des armes offensives. Donc là, Taïwan a mis un missile de portée de 1000 km, qui doit être de type Tianma probablement, qui a été testé il y a peu, et qui a pour but de démontrer que Taïwan aussi peut atteindre des objectifs militaires en Chine continentale. Donc il y a une course aux armements, une tension militaire croissante, et dans un contexte qui est celui d'opéra chinois, où la Chine essaye à la fois de diviser Taïwan en ramenant à elle les responsables de l'opposition, et cette opposition du Kuomintang, un parti dissident du Kuomintang, mais assez proche de ce parti, qui sont plus favorables à une réunification à long terme avec la Chine. En fait, tous les partis à Taïwan sont favorables à statu quo. Mmh. Personne ne veut se marier avec la Chine. Mais ces partis qui sont plus proches des milieux d'affaires voudraient, et aussi qui ont des racines sur le continent, des racines historiques sur le continent, voudraient trouver une forme d'entente avec la Chine continentale. La difficulté, c'est que vous avez ces deux éléments et que les Américains, qui sont les protecteurs de Taïwan, souhaiteraient que les Taïwanais investissent plus dans leur défense, modernisent leur outil militaire et restent vigilants face à cette menace croissante. Et c'est pas simple dans ce contexte d'intégration économique et humaine qui a tendance à faire baisser la garde à une partie de la société taïwanaise. Et donc, on peut se poser des questions sur l'esprit de défense à Taïwan et même la volonté du gouvernement Chen Shui-bian, qui est pourtant indépendantiste, de traduire en actes ses paroles et ses principes par des investissements plus lourds dans le domaine de la défense. Et lorsqu'on est un homme politique et on veut se faire réélire, il vaut mieux investir dans la sécurité sociale, dans les retraites, que dans la défense. Et donc, ça pose des problèmes politiques.
Non, puis il y a toujours l'argument que les armes appellent les armes et que plus on s'arme, plus de l'autre côté on s'arme. Et la différence, pour le moment, d'après les calculs de Jean-Pierre Cabestan, Taïwan est capable de résister.
Oui, en appliquant une stratégie du faible au fort qui peut dissuader la Chine.
Mais d'ici 5-10, peut-être 5 ans seulement, plutôt, Taïwan n'aura pas pu se procurer des armements qui permettent de résister à une attaque du continent.
Merci à vous deux, Marianne Bastide-Bruguière et Jean-Pierre Cabestan, d'avoir participé à cette émission sur Taïwan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à la réforme de l'ONU, réforme devenue nécessaire depuis que les rapports de force internationaux se réorganisent au profit d'une intervention américaine de plus en plus unilatérale. Merci à tous et à bientôt.
Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.